France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Une pétition recueille ce matin plus d'1 100 000 signatures. Pétition lancée hier seulement au Royaume-Uni contre la mesure annoncée par le Premier ministre. Boris Johnson souhaite suspendre le Parlement britannique jusqu'au 14 octobre, soit 2 semaines à peine avant la date du Brexit. Hier soir, des milliers de personnes ont manifesté à Londres, Manchester ou Édimbourg, brandissant un drapeau européen, refusant ce qu'elles appellent un coup d'État. Face à l'hypothèse grandissante d'une sortie de l'Union européenne sans accord, la livre sterling a chuté hier face à l'euro et au dollar de 0,6%. Turbulence politique aussi en ce moment en Italie, même si une coalition a, ça y est, été trouvée hier soir. Le mouvement populiste 5 étoiles et le parti démocrate de centre-gauche disent avoir trouvé un accord. Giuseppe Conte devrait être reconduit au poste de Premier ministre. La ligne d'extrême droite de Matteo Salvini serait ainsi écartée du pouvoir. Elle fut une éphémère ministre des armées, parle 4 langues, elle est connue à Bruxelles. Sylvie Goulard a été choisie par Emmanuel Macron pour siéger à la Commission européenne et pour y représenter la France. Une candidature entachée par une affaire judiciaire en cours, celle des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires en 2017. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, voulait une annonce choc, une hausse de 300 euros par an sur le salaire des professeurs dès l'année prochaine. Information donnée hier soir et pourtant, cette revalorisation salariale avait déjà été négociée sous le quinquennat de François Hollande, c'est ce que soulignent les syndicats. Certains d'entre eux ont déjà annoncé des grèves au mois de septembre.
Sans écrire, la vie n'est juste pas possible, dit-elle. Amélie Nothomb, à voix nue, au fil de 5 entretiens inédits sur France Culture.
L'écriture est dans ma vie depuis que j'ai 17 ans, c'est-à-dire depuis bien longtemps. Mais ne pas écrire, il ne saurait en être question. Ça a été une telle extase d'écrire ce livre.
Elle a écrit plus de 90 livres, dont une trentaine de publiés. Tous ses romans sont des best-sellers. De son enfance à la jeunesse d'une œuvre, des épreuves au temps qui passe, Amélie Nothomb se confie à voix nue de lundi à vendredi à 20h et sur franceculture.fr. Histoire d'amour et thriller, comédie sociale, roman d'apprentissage, Les grandes espérances de Charles Dickens sur France Culture.
C'était la veille de Noël, j'étais devant la tombe de mes parents. Et soudain, tout me sembla précisément défini.
Toujours pas rentré, le petit salopio.
Pip échappera-t-il à son destin de jeune villageois sans fortune? Deviendra-t-il le gentleman dont il rêve? Quelles ombres tutélaires planent sur lui? Du rire, des larmes, de la poésie? Les grandes espérances, le feuilleton, avec notamment Jacques Gondelin, le narrateur, de lundi à vendredi à 20h30, en podcast et sur franceculture.fr.
Il est 6h03 sur France Culture. Nous retrouvons, comme tous les matins, Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, comme tous les jeudis, c'est en musique qu'on se réveille. Le réveil culturel est une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Bruno Mourlan. Et aujourd'hui, en compagnie d'un duo qui nous vient du bout du monde, d'un territoire français situé à 17 000 km de l'Hexagone, un archipel dans l'océan Pacifique, un peu au nord du tropique du Capricorne, Kanaky, ou si vous préférez, la Nouvelle-Calédonie. Ce sont deux amis de longue date, amoureux de la chanson française et des musiques du monde. Le duo Kaori vient de sortir son deuxième album, qui a pour titre « À ciel ouvert ». Les deux chanteurs et guitaristes Alexis Diawari et Thierry Folch sont mes invités ce matin. Des chansons douces qui nous viennent de Nouméa dans un mélange subtil de bossa, de pop, de reggae et de variété française.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Ils peuvent bien partir pour des courses lointaines. Tous ces aventuriers tous ces grands capitaines ne les suivront pas, nous resterons à terre. Assoiffés d'idéal, d'écume et de lumière, nous serons l'un pour l'autre une terre nouvelle. Un monde toujours beau, un mystère éternel. Tournés vers l'intérieur, nous briserons nos chaînes. Au pays de l'amour, je serai roi, tu seras reine. Oh. Laissons-leur l'Amérique avec ses rêves fous, les îles Mascareignes et tout l'or du Pérou. Révisons Baudelaire, Guillaume Apollinaire. Sous l'arche de nos bras s'écoulera l'univers. Nous serons l'un pour l'autre une terre nouvelle. Un monde toujours beau, un mystère éternel. Tournés vers l'intérieur, nous briserons nos chaînes.
Baudelaire et Apollinaire, cités à partir de Nouméa, avec vos guitares, Alexis Djawabi et Thierry Folcher, vous êtes les deux guitaristes, deux chanteurs de ce duo que vous avez formé, le duo Kaori. Et ce qui est beau dans votre histoire, c'est que vous avez été longtemps amis. Et puis un jour, à l'âge où on prend sa retraite, vous avez décidé de vous lancer dans la musique, enfin dans l'enregistrement de vos musiques, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Alors, Alexis Djawabi.
Alors, dans l'album, il y a aussi un titre qui s'appelle « Je largue les amarres ». Donc, c'est un petit peu ça qu'on a largué notre ancienne vie. Et maintenant, on refait surface dans une autre vie, à ciel ouvert. Et voilà, et le chemin continue.
C'est votre deuxième album. Voilà. Le premier album est sorti il y a 2 ans. Vous connaissez depuis combien de temps, Thierry Folcher?
C'est une vieille amitié. C'est intemporel, quoi. Si on veut chiffrer, ça fait plus de 30 ans, mais après on chiffre plus, ça devient qualitatif.
Comment vous vous êtes connus?
Alors, c'est dans des réunions
des bœufs,
à Nouméa, et on s'est rencontrés un soir, on a joué ensemble, et puis bizarrement c'était autour de la musique anglo-saxonne, parce que là-bas on est entouré de l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui est à côté. Donc c'était avec Dire Straits à l'époque.
Et puis je crois que le disque qui a provoqué l'électrochoc chez nous, c'est le fameux Unplugged de Clapton. C'est un disque phénoménal. Moi je joue beaucoup au doigt, au picking. Je suis un élève lointain de Marcel Dadi, j'ai fait beaucoup de picking. Au bout d'un moment, je me suis lassé un petit peu, on avait envie d'explorer. Nous sommes des explorateurs. On est allé sur la bossa, on est allé... Et puis on a trouvé cet album de Clapton qui a été comme une révélation et il nous a beaucoup inspiré dans le style de jeu de guitare acoustique. Et après c'est le français bien sûr, on a mis tout en français.
Votre histoire, vous venez tous les deux de Nouméa, vous êtes nés à Nouméa ou chacun a sa propre histoire et Nouméa c'est le point où vous allez vous rencontrer?
Ben, disons que Nouméa, c'est la capitale.
Alexis Djawabi.
Donc c'est la capitale et bon, c'est là où il y a du travail et tout. Donc on vit en brousse. Bon, si on veut travailler.
En brousse.
En brousse, c'est-à-dire à l'intérieur. Hein. Donc moi, je suis de l'intérieur, du côté de Kanala, qui est à 170 km de Nouméa.
Et vous êtes Kanak.
Voilà, je suis Kanak, voilà.
Et parce que Thierry Folcher, lui, est caldoche.
Voilà, c'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit, alors que finalement, vous êtes juste un duo de Nouvelle-Calédonie.
Voilà, mais c'est bien de rappeler ce que vous dites, là, parce que on voit bien qu'il y a un croisement de destin qui est symbolique. On fait que nous, porter en nous ce qui se fait à plus vaste échelle en Nouvelle-Calédonie, on a véritablement une rencontre de destin qui est en train de s'opérer. C'est comme un laboratoire et on est pris là-dedans, oui.
Et l'idée de chanter en français, de rendre hommage à la variété française.
Alors,
c'est Thierry Faulcher qui parle, parce que c'est lui l'auteur des paroles, je suppose.
Oui, mais vous savez, on est très souvent ensemble. En ce moment, on est tout le temps ensemble, on boit le café ensemble. On partage beaucoup de moments tranquilles ensemble, on démarre la journée. C'est l'occasion de discussion, c'est l'occasion de... Et tout ça, si vous voulez, c'est un peu l'arrière-plan de ces créations. Alors, pourquoi le français? Parce que nous sommes des fervents défenseurs de la francophonie. Pour une raison simple, au-delà de la... Après, il y a des aspects esthétiques, on va dire, la beauté de la langue. Le français, je dis souvent, l'anglais écrase tout, mais l'anglais est en train de s'appauvrir et de s'écraser sous son propre poids. Hélas pour l'anglais, je suis angliciste de formation, hein, et je dis hélas pour l'anglais parce que, à force de véhiculer des valeurs matérielles et matérialistes, à son corps défendant, parce que c'est aussi une langue littéraire, vous vous appauvrissez. C'est une langue qui s'appauvrit. Il faut aussi véhiculer des valeurs poétiques, élargir. Et le français, ça reste quand même la langue poétique, la langue de la vision et la langue de l'altérité et de la diversité culturelle. La francophonie, c'est le garant de la diversité culturelle que nous véhiculons.
Qu'en pense Alexis Djavary ?
Il a tout à fait raison, c'est une belle chose, surtout que là-bas, en Calédonie, comme je disais tout à l'heure, on est entouré d'anglo-saxons, donc on est une petite minorité, à peine 300 000 pour des milliers d'anglais.
30 millions, je pense.
30 millions, voilà, d'anglais qui sont autour.
Non, mais il y a d'autres langues dans cet archipel, des langues, j'allais dire, ancestrales.
Oui, c'est des dialectes, voilà, c'est des dialectes, donc... il y en a 26 pour être précis hein, en Nouvelle-Calédonie. Moi-même, je parle mon dialecte, hein, sans problème.
Et vous imaginez pas chanter avec votre dialecte, Alexis Djavary?
Il y a des groupes là-bas locaux qui le font très bien d'ailleurs. Moi, je suis un petit peu tourner vers l'extérieur, donc j'aime prendre ce qui est en dehors, aller chercher un petit peu tout partout. C'est une île, donc il faut aller ailleurs.
Et vous faites des concerts souvent là-bas?
Oui, on en fait souvent là-bas. Et puis là, on va rentrer, donc dans 15 jours, on est à Nouméa, et on a pas mal de dates à assurer, oui, dont une grosse, où on va même prendre une salle de 400 places. On va faire, oui, on se l'a...
À quoi ressemblent vos concerts? Parce que l'album que vous venez de sortir, À ciel ouvert, il est très bien produit, il est produit dans un studio parisien avec les meilleurs arrangeurs. Est-ce que sur scène, vous retrouvez un peu cette intimité qui a été le point de départ de votre carrière, c'est-à-dire deux hommes, deux amis, deux guitares?
Mais on fait tout pour garder ce fil conducteur, sinon ça serait... Mais là, on fait avec... On tourne avec trois musiciens en plus, et c'est largement suffisant. On fait des belles choses avec intimistes, assez pas chargés, voilà. Et on fait des musiques, une musique assez épurée, on va dire. Mais on s'y retrouve, hein, sans problème.
Oui, on privilégie la notion de duo à géométrie variable. Après, c'est des réunions d'amis. Les gens que vous voyez sur l'album sont des amis. Nous, quand on commence notre spectacle, on arrive en duo. Et on interprète une chanson juste tous les deux. Pour bien que le public comprenne qu'on est d'abord un duo. Et puis après, on élargit avec les musiciens. Mais on a des moments où on est tous les deux.
Comment vous avez appris à jouer la guitare, et l'un et l'autre?
C'est autodidacte.
Thierry Faulcher, avec quelle musique? Sur quelle musique vous avez commencé à jouer de la guitare?
Sur quelle musique? Bon, en tant qu'étudiant à Montpellier, j'ai fait des études à Montpellier, j'ai été étudiant calédonien. Nécessairement, on se retrouve, on joue de la guitare. Dans le Pacifique, on joue de la guitare. Je suppose que chez vous aussi, on joue de la guitare. Et c'est spontané, quoi. Puis après, ça s'est précisé. Les chemins se sont précisés. Mais on est allé beaucoup vers le Brésil. Les formidables guitaristes brésiliens, pour moi, c'est le summum, oui. Au point de vue mélodique, c'est Jobim, Carlos Jobim. Ça, c'est le mélodiste. Mais après, vous avez Baden-Powell, qui est le guitariste. Après, vous avez Gilberto Gil. Vous en avez plusieurs, comme ça. C'est les noms phares que je vous donne. George Ben, qui a fait des trucs extraordinaires. Non, on est très influencé par ce côté chaloupé qu'a dansé. Puis le reggae.
Et le reggae, oui.
Le reggae.
Oui, là, c'est incontournable.
Si présent dans votre premier album, un peu moins présent dans le deuxième, dans ce À ciel ouvert qui vient de sortir.
Disons que le reggae, en fait, c'est pas vraiment reggae, c'est plutôt reggaeisant, mais c'est pas vraiment reggae. C'est un petit peu comme la bossa aussi qu'il y a dedans. C'est pas vraiment bossa, c'est un petit peu ce qu'on a écouté. Puis maintenant, on fait notre salade et voilà, ça sort ce qu'il en sort.
Thierry Folchet et Alexis Diawari, vous formez donc ce duo qui s'appelle le duo Kaori. Et Kaori, ça veut dire quoi?
Kaori, c'est un arbre au pays. C'est un arbre qui sert à la construction des cases traditionnelles et aussi des pirogues. Voilà, c'est un bel arbre.
Oui, c'est un symbole. Alors, c'est aussi le symbole, Kaori. Kaori, c'est le chêne français. C'est le symbole de la puissance, de la force, de l'enracinement. C'est l'arbre millénaire. Mais c'est aussi pour nous les branches. Donc on est très enracinés. Mais vous avez pu constater que les influences sont vers l'ouverture. Nous, on ne veut pas se refermer sur nous-mêmes. Pour ça, vous posiez la question tout à l'heure, on vous répond maintenant. On veut aller vers l'extérieur, on veut aller vers les autres.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Showbiz qui se font la bise. Capitaine Yo poursuit entre deux eaux la note bleue qui fait danser les mots sur les rythmiques exotiques des vagues dorées aux îles fortunées. Capitaine Yo, Capitaine Yo.
Extrait de leur dernier album, À ciel ouvert. Je suis avec le duo Kaori, et ça c'est Captain Yo. Cette chanson française de l'archipel qui vous a vu naître, l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, nous rappelle un peu ces chansons de Laurent Voulzy. D'ailleurs, depuis Laurent Voulzy, on n'a pas eu ce genre de chansons douces qui prolongent l'été. Il n'y a plus de passion, il n'y a pas de rivalité. C'est peut-être ça le fait de commencer la musique à votre âge.
Quand tout le monde arrête.
Quand tout le monde arrête. Donc il n'y a plus de ces histoires d'amour. Et vous parlez de choses plus douces, plus philosophique. Mais c'est qui ce Captain Yo?
Captain Yo, alors, je vous raconte l'histoire en deux mots. C'est Lionel Gaillardin. Lionel Gaillardin, c'est le guitariste d'Il était une fois, qui a connu une carrière glorieuse. Il était, j'ai encore rêvé d'elle et tous les trucs là, qui étaient très, très
populaires. Un tour sous la pluie et tout
voilà,
ça.
Voilà, voilà. Hein, et puis,
on se souvient.
Et, voilà. Et puis, je lui ai dit, voilà, moi, j'ai écrit ce morceau. J'ai fait que la guitare, j'ai écrit ce morceau. J'ai dit, c'est un hommage, tu en fais ce que tu veux. Tu vas l'arranger de façon libre. Évidemment, il y a une ressource Beatles qui sont ressorties parce que j'admire beaucoup Laurent Voulzy. Et Laurent Voulzy est un fan absolu des Beatles. C'est le fan de McCartney. Hein. Donc là, vous retrouvez Sgt. Pepper's. Les Maxwell Silverhammer, il y a tout là. Il a pris tous les clichés. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce que c'est surprenant hein, comme morceau. Mais alors, quel hommage au, pour moi, le plus grand groupe de pop qui ait jamais existé, c'est les Beatles. Hein, avec le côté mélodique. Et nous, on insiste beaucoup sur les mélodies. On fera pas de musique sans mélodie. Donc là, voilà, c'est un hommage à Captainio, c'est Lionel Gaillardin. Parce que quand on descend dans son studio, on a l'impression d'être dans un sous-marin. Et je lui ai toujours dit, parce qu'il y a les hublots, c'est rond, c'est machin, j'ai dit, on descend dans le sous-marin. Puis j'ai dit, ben, on va faire Captainio, parce que son surnom, c'est Yo. C'est Yo-Yo. Yo, Captainio, Lionel Gaillardin. Voilà, ça donne ça. C'est un truc complètement loufoque.
Quels sont les premiers disques que vous avez achetés? Alexis Diawari, pour commencer.
Beaucoup de musique variété française. Hein. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Claude François et j'en passe. Donc, j'ai commencé à écouter tous ces gens-là. Après, dans les années 70, d'aller vers les Beatles, les Rolling Stones, parce qu'on était jeunes, donc on était... donc, on voulait changer un petit peu les choses. Et les Creedence, les Roger Hurwell et compagnie. Donc, après, on a commencé à jouer toutes ces chansons-là.
Thierry Folché?
L'influence anglo-saxonne. J'aimais beaucoup Neil Young à une époque.
Et on trouvait tout à Nouméa?
Oh, pratiquement, oui. Mais moi, c'est Montpellier qui m'a branché.
C'est les années fac?
Les années fac. Ouais. Neil Young régnait à cette époque. Il y avait Carlos Santana. On a eu cette chance. On a été bénis. C'était une époque magique. On pourrait dire sans nom comme ça, tout aussi merveilleux les uns que les autres. C'était les grandes années. Les Eagles commençaient aussi à cette époque. Voilà, on a été baignés. Maxime Le Forestier, qui est toutes ses influences, les bons joueurs de guitare qu'on aimait bien. Oui, et puis on a fait beaucoup de reprises, et puis au bout d'un moment, on s'est dit on va faire les nôtres de chansons.
Alexis Diawari et Thierry Folcher, quelle vision vous avez de ce qui se passe ici, vous qui venez de Nouvelle-Calédonie?
Alors à Paris.
Par exemple,
Paris, c'est un monde qui a ses codes et qu'on doit décoder parce que entre Paris et la Nouvelle-Calédonie, on va dire l'Océanie, il y a un gouffre. Il y a un gouffre culturel.
Et 17 000 kilomètres. Hein.
Et puis, les modes de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Vous avez une société qui est traditionnelle, plus, on va dire, plus collective, plus individualiste ici. Ce n'est pas des critiques. Hein. Je pense que ces deux mondes doivent s'équilibrer. Le collectif doit devenir plus individualiste et l'individualiste plus collectif, parce qu'il y a du bon dans les deux. Donc nous, on est à la recherche d'un point d'équilibre. On se sent sur le fil quand on vient, nous, ici, parce qu'on appartient à un monde qui est quand même un monde très marqué par la tradition, même le monde occidental, et on arrive ici, qui est un monde, on va dire, très agité, beaucoup de confusion. Je sens beaucoup de confusion, et nous, ça nous paraît assez désordonné, mais il y a un ordre à trouver, parce qu'il y a un ordre dans le chaos, nécessairement, assez chaotique. Ouais.
Là, par exemple, vous comptez les jours avant de repartir en Nouvelle-Calédonie, ou vous êtes bien,
pas
finalement,
du tout, pas du
un
coup,
été
pas du tout.
En métropole?
Pas du tout, c'est une expérience qui est enrichissante, il faut justement faire l'effort de décoder, comme à l'inverse, si vous allez là-bas, vous allez faire l'effort de décoder sans appliquer vos préjugés, sans appliquer vos stéréotypes. Donc il faut faire l'effort de comprendre la situation pour ce qu'elle est. C'est très bon.
L'année dernière, on a beaucoup parlé de la Nouvelle-Calédonie parce qu'il y avait ce référendum pour l'autodétermination ou l'indépendance. Vous-même, vous avez une idée là-dessus, Thierry Folcher et Alexis Diawari?
Alors, une chose qui nous surprend ici, c'est le côté tabou de certaines discussions qui, chez nous, sont totalement libres. Par exemple, le côté, on va dire, la race, c'est pas connoté négativement. On est très libre, nous on se parle très librement, politique, ethnie, culture, et on a l'impression ici qu'il faut pas dire, il y a des trucs qu'il faut pas dire. D'ailleurs, on a fait la chanson, vous voyez, on en parle, la pensée unique. Et ça nous choque parce que je crois que c'est pas une bonne chose que d'interdire des débats pour des raisons idéologiques. Et nous, on en parle de tout.
Et en résumé, vous êtes pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? La Nouvelle-Calédonie ou plutôt Kanaki?
On est pour que de le vivre ensemble. C'est ça. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. On a dépassé. Parce que l'indépendance.
Vivre ensemble avec le lien à la France ou vivre ensemble.
Entre nous là-bas.
Entre déjà, nous là-bas déjà, et indépendants.
C'est un peu compliqué cette histoire parce que, si vous voulez, c'est déjà presque indépendant parce qu'il y a des transferts de compétences. Mais c'est encore français parce qu'il y a la France qui est là-bas. Donc c'est assez. On est obligé de composer avec ça. Hein. Mm-hmm. On est obligé.
Surtout quand on compose des chansons françaises. Voilà. Et vous, votre avis, Thierry Folcher?
Moi, je dirais que le non-dit, il est omniprésent et que les hommes politiques, même indépendantistes, ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent.
Et vous-même, qu'est-ce que vous pensez?
Moi,
vous
je pense que.
L'indépendance ou plutôt le.
On est déjà indépendant. Toutes nos affaires internes sont gérées par la Nouvelle-Calédonie. On a un gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et il nous manque quatre compétences régaliennes. Les quatre compétences régaliennes, c'est la défense. Comme disait Jean-Marie Tjibaou, une armée pour faire quoi? Pour attaquer le Vanuatu, c'était ses paroles. La monnaie, une monnaie pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on aurait comme monnaie? La justice, c'est un petit pays. Est-ce qu'on a envie d'être jugé au niveau, vous savez, il y a des clans, il y a des machins. Et la police, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Alors je vous dirais qu'il y a un non-dit, il y a ce qui n'est pas dit, il y a ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Moi je pense, mon opinion, c'est qu'on doit garder le lien avec la France, parce que c'est une garantie. Il y a une grande superpuissance qui est en train de déployer ses pions dans le Pacifique. Je pense qu'il vaut mieux être français que d'une autre grande puissance que vous connaissez. Mais cela dit, conserver notre côté très typique, notre autonomie, parce qu'on est autonome. L'indépendance pure et dure, je crois que personne ne la veut dans le fond. Personne ne la veut. Pour moi, c'est un faux débat, ça. Si les gens donnaient le fond de leur pensée, vous seriez surpris.
Sentira crisser le sable sous tes pieds, viens vivre la vie à ciel ouvert, à ciel ouvert. Amène les poètes, les types un peu fêlés, les peigneurs de comètes, les chiens abandonnés pour vivre la vie à ciel ouvert, à ciel ouvert.
À ciel ouvert, c'est le titre du deuxième album du groupe Kaori. Kaori, c'est Alexis Diawari qui joue de la guitare et Thierry Folcher qui est le compositeur et le chanteur du duo. Thierry Folcher qui a découvert qu'il était descendant de bagnards et Alexis Diawari qui, lui, il a grandi dans une tribu kanak. Ce duo nous vient de Nouvelle-Calédonie. Ils sont encore avec nous en France pour terminer leur grande tournée d'été. Merci d'avoir participé à cette émission. Nous, on se retrouve demain. Le Réveil Culturel est une émission de France Culture que vous pouvez écouter pas forcément tous les matins à 6h. Hein, on peut s'abonner au podcast, n'est-ce pas? Surtout en Nouvelle-Calédonie. Et le podcast, on le retrouve dans l'application Radio France ou en passant par franceculture.fr. À la coordination Corinne Amard, à la technique Bruno Mourlan. Et c'est une réalisation de Vincent Abouchard. Bonne matinée.
Danser sous la pluie.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
La nouvelle émission quotidienne d'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Cette semaine, retour sur l'année 1989, une année charnière de Tiananmen à la Stasi, avec vendredi une balade radiophonique en direct de Berlin. Que reste-t-il de la RDA dans l'Allemagne d'aujourd'hui, 30 ans après la chute du mur? Nous en chercherons les traces.
Le cours de l'histoire, de lundi à vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr. Écoutez, prenez le temps d'écouter. Au cœur de Paris, l'auditorium de Radio France accueille plus de 200 concerts. Symphonie, concerto, chœur, jazz, récital, opéra, avec les artistes les plus prestigieux. Prenez le temps de vous retrouver à l'auditorium de Radio France. Entrez
au cœur du concert. Abonnement et réservation, maisondelaradio.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'extrême droite sera remplacée par le centre-gauche en Italie, aux côtés des populistes des 5 étoiles au gouvernement. Un grand écart pour une coalition de circonstances qui barre la route à Matteo Salvini de la Ligue d'extrême droite. Ce dernier évoque un déni de démocratie, vous l'entendrez. Et il est question aussi de la démocratie au Royaume-Uni en ce moment. Colère de centaines de milliers de Britanniques après la décision du chef du gouvernement Boris Johnson. Il suspend les travaux parlementaires quasiment jusqu'au Brexit fin octobre. L'OMS s'inquiète du nombre croissant de cas de rougeole en Europe. Dans ce journal, nous dresserons son bilan. Et puis vous comprendrez pourquoi la revalorisation salariale indiquée par les professeurs par le ministre de l'Éducation nationale ne convainc pas. Cette revalorisation était en réalité attendue et annoncée depuis longtemps. L'Italie est donc sur le point de sortir de la crise politique. Les populistes du mouvement 5 étoiles et le parti démocrate de centre-gauche ont trouvé hier soir un accord. Reste une étape à franchir maintenant. Le président doit valider ce nouveau gouvernement et avec à sa tête Giuseppe Conte qui reprendra les rênes du gouvernement. Il est convoqué ce matin par le président. Le futur gouvernement remplacera donc l'alliance des 5 étoiles et de la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini. Ce dernier, qui avait provoqué la chute de la précédente coalition, reconnaît qu'il a perdu son pari et il prend maintenant pour cible les démocrates qui prennent sa place.
Ces dernières années, le Parti démocrate a été le seul parti à perdre systématiquement toutes les élections. Des millions d'électeurs sont en train de se demander à quoi sert leur vote si ceux qu'ils ont jetés par la porte reviennent par la fenêtre. Ça ne serait pas plus sage, plus juste, plus honnête, plus cohérent de faire voter les Italiens pour avoir une majorité solide, stable et cohérente pour 5 ans? En plus, eux, ils ont commencé à se chamailler avant même de commencer. Nous, il nous a fallu un an au gouvernement avant de nous disputer. La vérité, c'est que 60 millions d'Italiens sont pris en otage par 100 parlementaires agrippés à leur fauteuil. C'est ça la démocratie ?
Matteo Salvini, chef de file de l'extrême droite en Italie, traduit grâce à notre envoyée spéciale Isabelle Labéry. La situation du moment est plutôt contraire au Royaume-Uni. Là, le pays s'enfonce dans une crise politique qui pourrait devenir une crise économique. Le Premier ministre Boris Johnson a décidé hier de suspendre pendant 5 semaines le Parlement britannique, ne laissant plus aux députés que 3 petites semaines pour discuter d'un Brexit avec ou sans accord. Hier soir, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues un peu partout dans le pays et notamment à Londres. Une pétition contre cette suspension parlementaire a recueilli en moins de 24 heures plus d'1 million de signatures. L'Europe perd du terrain dans la bataille contre la rougeole. L'Organisation mondiale de la santé s'en inquiète. L'OMS publie ce matin un bilan de la maladie et pour la première fois en 7 ans, le nombre de cas de rougeole augmente en Europe avec 6000 cas de plus en 2018 qu'en 2017, soit 90 000 au total. La rougeole continue de tuer, c'est une maladie très contagieuse. Certains pays comme la France ne parviennent pas à l'éradiquer quand d'autres la voient même réapparaître, Solène Lehen.
Si dans 33 pays européens, la rougeole a totalement disparu, elle a fait son retour au Royaume-Uni, en Grèce, en République tchèque et en Albanie, 4 pays européens qui l'avaient pourtant éradiquée. 11 autres pays ne s'en sortent pas, transmission toujours épidémique, la France en fait partie, une situation européenne qui préoccupe le docteur Kate O'Brien de l'OMS.
Nous régressons, nous faisons fausse route et ça c'est extrêmement inquiétant. Évidemment pour la santé des enfants, mais pas seulement car la rougeole est aussi une maladie qui touche les adultes. À moins que les pays concernés ne fassent des efforts importants et durables pour lutter contre la rougeole, nous allons voir le nombre de malades continuer d'augmenter.
En France, la vaccination contre la rougeole est désormais obligatoire pour tous les enfants. L'épidémie cette année est est un peu moins forte que l'an dernier, avec un pic observé au mois de mai et tout de même 2400 cas depuis le 1er janvier, dont deux morts. Les malades sont aujourd'hui surtout de jeunes adultes, jamais vaccinés ou qui n'ont pas reçu les deux doses nécessaires. La plupart des cas de rougeole sont concentrés dans les régions du Sud, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Après 15 jours passés sur l'océan Atlantique, Greta Thunberg est arrivée à New York hier soir. La jeune activiste suédoise a appelé sur le quai devant 300 personnes, a appelé Donald Trump à écouter la science et l'humanité, à cesser de détruire la nature, prenant pour exemple les feux de forêt en ce moment en Amazonie. Bruno Le Maire reçoit ce matin le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría. Ils vont discuter tous les deux à Bercy de la taxation des entreprises numériques, les GAFAM notamment. L'OCDE avait fait une proposition remise devant sur le devant de la scène ce week-end à l'occasion du G7 à Biarritz. 129 pays en début d'année s'étaient engagés à trouver un accord d'ici 2020. Mais depuis, cela n'avance qu'à petits pas, Catherine Pétillon.
Après avoir mis du temps à s'accorder sur l'objectif, les pays de l'OCDE doivent encore négocier sa mise en œuvre. Le but commun, c'est d'aboutir à une juste taxation des grandes entreprises du numérique dans les pays où elles réalisent leurs activités et leurs bénéfices, mais où elles ne payent pas d'impôts, faute d'y détenir leur siège ou de grosses implantations. C'est l'un des critères actuels de l'impôt sur les sociétés, or la majorité des entreprises du numérique y échappent. Les travaux de l'OCDE reposent donc sur deux grands axes, taxer les entreprises qui ne sont actuellement pas imposables et créer un impôt minimum sur les bénéfices pour enrayer l'évasion fiscale des multinationales. Avec un tel impôt, si une entreprise exerce une activité à l'étranger et qu'elle y est taxée à un niveau inférieur à un taux minimum, l'État où siège cette entreprise pourrait récupérer la différence. Restent de nombreuses questions à résoudre. À quelle hauteur taxer les entreprises? Quelle activité imposer? Les États-Unis plaident pour une réforme concernant tous les secteurs, quand d'autres pays comme la France voudraient un traitement spécifique aux entreprises du numérique. Cela fait partie des sujets qui seront abordés par Bruno Le Maire lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, ce matin. L'OCDE devrait par ailleurs faire des propositions concrètes début octobre, avant le prochain G20 des ministres des Finances, prévu le 17 octobre.
Il n'y a en revanche pas de date prévue pour réformer en France les institutions. Le projet a été présenté hier en Conseil des ministres. Il y est inscrit une dose de proportionnelle pour les élections législatives et surtout la réduction d'un quart du nombre de parlementaires dans le pays, mesure que refuse le Sénat notamment. Le texte ne sera donc pas examiné tout de suite au Parlement. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, annonce une revalorisation pour les professeurs, plus 300 euros sur l'année 2020. Toutefois, ce n'est pas une nouveauté, c'était acté sous le quinquennat de François Hollande, Sonia Princey.
Ces 300 millions supplémentaires étaient une promesse du précédent gouvernement. Dans le cadre de ce que l'on appelle le protocole sur les carrières et rémunérations, le PPCR, il s'agit en fait d'un accord signé très largement avec les syndicats et qui permet un rattrapage des salaires des enseignants. Un premier versement avait été effectué début 2017 et le gouvernement actuel avait toujours dit qu'il respecterait cet engagement mais n'avait pas précisé le calendrier. C'est désormais dans le budget 2020, 300 millions pour 1 million de personnels. Le ministre Jean-Michel Blanquer a donc donné ce chiffre moyen de 300 euros annuels en plus pour les professeurs. Il n'aurait pas dû le dire comme ça, regrette un membre de son cabinet, car il s'agit d'une moyenne. Tous les professeurs ne toucheront pas cette somme équivalente à 25 euros par mois. C'est en fonction de certains critères et de la carrière. Mais avec ce semblant d'annonce, Jean-Michel Blanquer espère peut-être redorer son image à quelques jours de la rentrée, à défaut de revaloriser sérieusement le salaire des enseignants.
Le MEDEF défend un relèvement de l'âge de départ à la retraite dans la future réforme, contrairement à ce qu'a préconisé Emmanuel Macron lundi soir. L'organisation patronale poursuit son université d'été sur l'hippodrome de Longchamp à Paris. Aujourd'hui, il sera question de politique extérieure avec un invité vedette, Nicolas Sarkozy. L'ancien président multiplie ainsi les apparitions publiques, Anne Fauquemberg.
Depuis deux mois et demi et la sortie de son livre autobiographique, Nicolas Sarkozy enchaîne les dédicaces. L'ouest de la France en juillet, la Méditerranée en août, il y a à peine trois jours, encore un bain de foule à Nice. Et ce jeudi, ce sont donc les retrouvailles avec les universités d'été du MEDEF, troisième fois que l'ancien président s'y rend. L'idée de cette invitation remonte à 2018. Geoffroy Roux de Bézieux, le président de l'organisation patronale, avait apprécié l'un de ses discours formulés à Abu Dhabi sur la difficulté des démocraties aussi à produire des leaders. Pas de commentaires de politique intérieure toutefois. Nicolas Sarkozy présentera sa vision des affaires internationales, la crise du multilatéralisme, la place de la Russie ou encore l'avenir de l'Europe. Et pour l'interroger, quatre jeunes chefs d'entreprise, dont Paola Fabiani qui préside le COMEX 40, la structure patronale des jeunes entrepreneurs.
Il a été un président majeur qui a traversé une crise de 2008-2009 importante, et c'est très intéressant d'avoir son point de vue et son regard par rapport notamment, alors évidemment à l'issue du G7, mais surtout par rapport à la transformation mondiale ou finalement la géopolitique qui est très agitée, et avoir un peu son regard par rapport à ça.
Un ex-président qui fusionne désormais concrètement avec le monde économique. Au printemps dernier, il est entré au conseil d'administration du groupe Barrière, propriétaire du Fouquet's, puis il a été réélu à celui du groupe Accor, une position d'administrateur indépendant qu'il avait rejoint après la défaite de la primaire de la droite en 2017.
Nous en venons à la météo de ce jeudi. Le temps sera calme sur l'ouest ce matin, plus instable sur la partie est avec quelques pluies prévues sur le Grand Est. Il fera dans la matinée 17 degrés à Brest, 21 à Lille, 22 à Paris et 29 à Perpignan. Il est 6h40 et vous êtes sur France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Nous vous retrouvons pour votre journal des idées. La rentrée approche. Demain pour les enseignants, lundi pour les élèves. Et Jacques, le sujet est évidemment abordé dans la presse.
Oui. Alors dans les pages idées de Libération, Simon Blin et Sonia Faure rendent compte de la grande enquête menée pendant 5 ans par 16 sociologues sous la direction de Bernard Lahire et qui sort aujourd'hui au Seuil sous le titre « Enfance de classe, éducation, apprentissage, des codes, alimentation, loisirs, l'enquête explore en profondeur comment les inégalités s'instaurent dès la maternelle. On savait que l'enfance connaît les inégalités. 7 enfants de cadre sur 10 exercent un emploi d'encadrement, alors que 7 enfants d'ouvriers sur 10 demeurent cantonnés à des emplois d'exécution. Mais, soulignent les auteurs de l'article, ce qui se dessine au fil des pages d'enfance de classe, c'est par quelle fine voie d'eau l'ordre inégal des choses s'infiltre déjà dans la vie d'enfant de 5 ans, l'espace plus ou moins grand dans lequel on vit, quand il existe un lieu à soi, les lectures que l'on fait, les critiques qu'on se permet devant le poste de télé, ce qu'on mange, ce qu'on porte sur soi. L'image employée par Bernard Lahire le résume bien. Certains enfants vivent d'ores et déjà une réalité augmentée. Les pouvoirs économiques et culturels, écrit-il, offrent une vie quasi infinie, avoir une résidence secondaire ou voyager, employer une femme de ménage et libérer du temps pour les sorties, avoir une alimentation saine et allonger son espérance de vie, visiter les musées et découvrir d'autres mondes. Autant d'extensions de soi pour l'enfant, pour d'autres qui cumulent les handicaps et les manques de ressources, c'est toute la vie qui se restreint. Résultat, l'autonomie par exemple, qui est valorisée par l'école, est une compétence acquise en famille par les enfants des milieux favorisés qui savent déjà ce qu'on attend d'eux, quelles sont les consignes et comment les respecter. Autre exemple, la pratique du langage, évoqué par la sociologue Marianne Woolven, qui a contribué à cette enquête. L'usage du second degré, en particulier le fait de manipuler l'ironie, suppose une réflexivité langagière élevée, car on utilise le langage pour dire quelque chose qui n'existe pas. Cet usage non littéral du langage est plus présent chez les familles à fort capital culturel, où on aime faire des blagues et jouer avec les mots. Or, cet usage réflexif de la langue est le plus adapté à la pratique de l'écrit. Bref, Durkheim l'observait déjà par notre exemple, écrivait-il dans Éducation et Sociologie, par notre exemple, par les paroles que nous prononçons, par les actes que nous accomplissons, nous façonnons d'une manière continue l'âme de nos enfants. Mais jusqu'à présent, les sociologues ne s'étaient pas beaucoup intéressés à cette phase initiale de la reproduction des inégalités, laissant le terrain de l'enfance aux pédiatres, à la psychologie, puis aux neurosciences. Les enfants sont des super ordinateurs, donnons-leur les données dont ils ont besoin, affirmait Stanislas Dehaene, chargé par le ministre de l'Éducation de mettre au point les nouvelles pédagogies numériques basées sur les neurosciences. Dans la dernière livraison de la revue Oui Demain, Kirill Nikitin fait le point sur les expérimentations en cours pour améliorer l'apprentissage du calcul et de l'écriture. Présentées comme un remède à l'échec scolaire, ces pédagogies d'appoint n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité, mais elles révèlent déjà leurs limites. Le neuroscientifique Christian Xéry estime qu'elle pourrait menacer le bon développement du cerveau. Selon lui, l'approche consistant à figer une fonction intellectuelle dans une région précise du cerveau ne convient pas à la plasticité neuronale essentielle au développement des capacités cognitives de l'enfant. Réfléchir, dit-il, c'est s'adapter à un contexte qui change. Si l'enfant est capable d'adaptation et de flexibilité, c'est parce qu'il fait appel à de multiples circuits cérébraux. Alors que l'éducation classique met en œuvre des capacités diversifiées, essentielles pour la prise de décision, la planification ou la mémorisation, et développées en interaction vivante, les jeux vidéo à usage pédagogique ne feraient que formater le cerveau par des tâches routinières, sans compter le risque d'addiction précoce aux écrans ou d'isolement social. Dans le monde diplomatique, deux enseignants reviennent sur l'un des mots d'ordre du ministre de l'Éducation nationale lors de sa première rentrée en 2017, la bienveillance qu'ils analysent comme un cache-misère de la sélection sociale à l'école. Pour Clotilde Dozier et Samuel Dumoulin, le message est clair, professeur sévère, en déployant au quotidien la panoplie du découragement, sourcils froncés, remarques acerbes, notes exagérément basses. Vous portez la responsabilité première dans l'échec de centaines de milliers de chrysalides qui n'attendaient qu'un geste pour se faire papillon. On pourrait entendre la préconisation, si elle ne tendait pas à substituer à la mission d'émancipation de l'école l'impératif d'épanouissement personnel, un discours pseudo-égalitaire qui a pour objectif d'escamoter les causes réelles de l'échec scolaire. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
C'est l'heure des enjeux internationaux. Alors grâce à vous et votre invité, on saura tout aujourd'hui sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur, les réticences françaises mais aussi latino-américaines.
Oui, pour l'instant c'est vrai que seule la France et l'Irlande ont annoncé publiquement ne plus soutenir l'accord en l'état, c'est-à-dire tel qu'il a été signé pas plus tard qu'à la fin juin. Pour l'Irlande, les réserves concernent l'agriculture. Emmanuel Macron lui a justifié sa décision par le comportement de son homologue brésilien, Jair Bolsonaro. Sa nonchalance a parlé de l'Amazonie en feu. Mais peut-être que le président français a senti que du côté de l'Amérique du Sud, la donne avait aussi quelque peu changé. Bonjour Gaspard Estrada.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes le directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes, l'OPALC, à Sciences Po. De ce que vous avez pu constater, lire dans la presse, discuter avec les personnes que vous connaissez dans les pays du Mercosur, comment est reçue cette toute récente réserve d'Emmanuel Macron sur l'accord du libre-échange ?
Bon, cet accord, il est très important pour les pays de la région, compte tenu des enjeux qui sont au cœur de cet accord, que ce soit sur le plan agricole, que ce soit sur le volet industriel. Cet accord est lourd d'enjeux pour l'avenir des économies de la région.
Rappeler en quelques mots que l'idée, c'est de supprimer d'ici à 10 ans les droits de douane sur les exportations d'un continent vers l'autre et que notamment l'Union européenne a accepté d'augmenter les quotas de viande bovine. Voilà, c'est un accord auquel il faudrait consacrer une émission entière.
Absolument, mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux négociations qui avaient eu lieu il y a déjà plus d'une dizaine d'années, puisqu'il faut bien avoir à l'esprit que cela fait plus de 20 ans que les pays sont en train de négocier, les quotas qui ont été autorisés par l'Union européenne au cours de ces négociations sont sensiblement inférieurs aux chiffres qui avaient été évoqués il y a une quinzaine d'années en ce qui concerne les quotas de viande bovine. En 2004, le Brésil n'acceptait pas un montant qui soit au-dessous de 300 000 tonnes de viande par an. Or, dans cet accord-là, l'accord porte sur 99 000 tonnes. Donc, du côté brésilien, il y a des réticences quant à cet accord, puisqu'on voit bien que les montants qui étaient évalués il y a une dizaine d'années sont très en deçà des espérances des exportateurs brésiliens, et c'est ce qui fait dire à certains brésiliens et certains membres des lobbies agro-exportateurs que cet accord n'est pas positif pour le Brésil.
Donc est-ce que ça veut dire que ça arrange finalement le Brésil de Jair Bolsonaro que pour l'instant Emmanuel Macron se retire de l'accord ou en tout cas dise ne pas vouloir le signer?
Pour Bolsonaro aujourd'hui, il est difficile d'admettre cette hypothèse de manière publique compte tenu de toute la publicité qui a été menée par le gouvernement brésilien autour de cet accord, mais il est clair que les priorités de politique étrangère de Jair Bolsonaro ne vont pas du tout dans le sens de la défense d'un multilatéralisme basé sur des normes, ce qui est le cœur de cet accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, puisqu'il vise à imposer aussi des normes notamment sur le plan de la qualité, des normes sanitaires, des normes industrielles qui viseraient à assurer aux consommateurs de l'Union européenne le respect des normes qui sont en vigueur dans notre région.
Est-ce que, dans un sens, ça ne l'arrange pas aussi, Jair Bolsonaro, de s'éloigner de cet accord, lui qui s'est vu imposer de plus en plus de contraintes par l'Union européenne dans le cadre de ce texte, comme cette clause, par exemple, qui l'oblige à respecter les accords de Paris en matière d'émissions de gaz à effet de serre, sont des contraintes dont on ne parlait pas du tout au début des discussions sur l'accord du Mercosur. Finalement, il est en train de se dire qu'il tombe peut-être dans un piège duquel il ne pourra pas ressortir.
Sans aucun doute, d'autant plus que son grand allié, les États-Unis, ont exprimé leur mécontentement par rapport à cet accord. Le secrétaire au commerce des États-Unis, Wilbur Ross, a fait un déplacement en Amérique du Sud quelques semaines après l'annonce de cet accord pour exprimer le mécontentement des États-Unis vis-à-vis de cet accord, puisque très clairement, les États-Unis seraient exclus d'un marché, le Mercosur, de près de 300 millions de consommateurs, un marché qui serait ouvert de manière préférentielle aux entreprises européennes, et donc cela ne fait pas le jeu de Washington.
Alors, encore une fois, pour revenir un instant sur Jair Bolsonaro, lui, les contraintes qui pèsent sur lui au sein de cet accord lui déplaisent beaucoup, il l'a dit à plusieurs reprises, mais pour autant, c'est pas un texte qui prévoyait des réelles sanctions s'il n'avait pas respecté ses engagements, et il n'aurait pas eu à en subir les conséquences. Les ONG environnementales n'ont de cesse de le dire.
Oui, sans aucun doute. Mais là encore, je pense qu'il y a aussi un contexte politique qui a évolué dans la région sud-américaine. Je pense notamment à ce qui s'est passé en Argentine il y a quelques semaines. Un des grands défenseurs de cet accord en Amérique du Sud, le président Macri, le président d'Argentine,
libéral,
a perdu les élections primaires, vraisemblablement. Il ne sera pas en mesure de se faire réélire par les Argentins à la fin du mois d'octobre. Et le candidat qui vraisemblablement pourrait être en mesure de gagner cette élection a d'ores et déjà annoncé son souhait de renégocier le traité en l'état. Et donc, de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait un acteur fondamental, un acteur majeur de cet accord qui soit, disons, critique ou sceptique vis-à-vis de cet accord, va de fait rendre cet accord non viable, en tout cas à court terme.
Les élections primaires en Argentine, c'est une sorte de répétition générale avant la présidentielle d'octobre, et c'est en effet le péroniste de centre-gauche Alberto Fernandez qui l'a remporté, entre guillemets, et l'Argentine a par ailleurs, et est quand même aujourd'hui à nouveau menacée par une récession sévère, plusieurs signaux sont au rouge, le peso s'effondre. Est-ce que ça aussi c'est nature à remettre en cause un tel accord, ou au contraire, est-ce que les éleveurs et les industriels argentins comptent sur lui pour ne pas périr?
Alors il compte sur justement la puissance des exportations et la compétitivité argentine, mais dès lors que cet accord n'entre pas en vigueur, les Argentins devront se débrouiller par eux-mêmes. Et je crois que l'élément central aujourd'hui, c'est que tant que cet accord ne soit pas ratifié, les exportateurs argentins ne peuvent pas parier sur cet accord, compte tenu du nombre d'inconnus qui existent. On a parlé de l'Argentine, on a parlé du Brésil, mais on parle aussi de la France, du fait que les agriculteurs français sont extrêmement hostiles vis-à-vis de cet accord, y compris au sein de la majorité, il y a de vraies questions par rapport à cet accord. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut rester très prudent quant à la mise en œuvre de l'accord.
C'est vrai qu'en France, des élus, principalement de La République En Marche, avaient signé contre le Mercosur, voté plutôt contre le Mercosur, mais pour le CETA, le traité de libre-échange avec cette fois le Canada. Qu'est-ce qui différencie à ce point les deux accords dans le fond? Il y a certains élus de La République En Marche qui ont fait campagne vraiment auprès des agriculteurs de leur région pour dire non, on ne sera pas pour le Mercosur. En revanche, le CETA, on y réfléchi.
Bon, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'il y a une différence d'enjeu. L'accord avec le Mercosur touche de manière beaucoup plus directe les filières françaises, agricoles, notamment la filière bovine, la filière du sucre. Et donc, c'est de ce point de vue-là ce qui suscite ces controverses, ces inquiétudes, également la question de la qualité, la question des pesticides, la question des OGM qui sont au cœur des méthodes d'exploitation de l'agriculture en Amérique du Sud.
Alors là, vous nous avez parlé des réserves du Brésil, de l'Argentine, mais les autres pays du Mercosur, Uruguay, Paraguay, est-ce qu'ils ont pris position récemment? Est-ce qu'ils en ont reparlé?
Il n'y a pas eu de prise de position publique de ces deux pays. Je pense que vous l'avez fait bien de le mentionner. Il y a aussi des pays qui sont très favorables à cet accord. Je pense notamment à l'Espagne, je pense à l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, ce serait la possibilité pour l'Europe de, dans un temps où le multilatéralisme n'a pas le vent en poupe, n'est pas en vogue, d'arrimer de manière structurelle l'Europe a une région qui est démocratique, qui est tant bien que mal stable, il n'y a pas de guerre en Amérique latine, et qui permettrait de créer...
Démocratique avec un président brésilien qui commence à faire peur à tout le monde quand même.
Ah, oui, bon, il a été élu démocratiquement, et surtout cet accord permettrait de créer un grand marché de 700 millions d'habitants, ce qui est quand même inédit. Et c'est pour cela qu'il y a de forts soutiens, tant en Espagne qu'en Allemagne, à la conclusion de cet accord.
Voilà, par les politiques et moins par les agriculteurs, en tout cas en Europe, et moins par les organisations environnementales, évidemment, puisque tout traité de libre-échange vise à augmenter les échanges, c'est leur définition, et forcément en ce moment, c'est évidemment remis en question. Un dernier mot pour nous dire, Gaspard Estrada, quand Emmanuel Macron se dit qu'il se retire ou qu'il ne signera pas, ça veut dire quoi? Il a un droit de veto sur l'accord juridiquement? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, non. Aujourd'hui, on rentre dans la phase de ratification. Donc, de ce point de vue-là, il y aura la ratification par le Parlement européen et puis par la suite par les parlements nationaux des pays sud-américains puis des pays de l'Union européenne. Donc, la France pourrait s'opposer, c'est-à-dire ne pas ratifier l'accord, auquel cas, cet accord ne serait pas validé.
Merci Gaspard Estrada d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Elle nous émeuvent, nous forme, nous interpelle. La compagnie des œuvres sur France Culture. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Tous les grands classiques ont leur place sur France Culture. C'est pourquoi en cette rentrée, la compagnie des auteurs devient la compagnie des œuvres. Nous y parlerons de tout, de littérature évidemment, mais également de cinéma, d'art plastique, de musique et pourquoi pas d'architecture. Tout cela avec le même principe, raconter un créateur en partant de la vie et en allant vers l'œuvre.
Cette semaine, Stanley Kubrick, la compagnie des œuvres, de lundi à vendredi à 15h et sur franceculture.fr. Sans écrire, la vie n'est juste pas possible, dit-elle. Amélie Nothomb, à voix nue, au fil de 5 entretiens inédits sur France Culture.
L'écriture est dans ma vie depuis que j'ai 17 ans, c'est-à-dire depuis bien longtemps. Mais ne pas écrire, il ne saurait en être question. Ça a été une telle extase d'écrire ce livre.
Elle a écrit plus de 90 livres, dont une trentaine de publiés. Tous ses romans sont des best-sellers. De son enfance à la jeunesse d'une œuvre, des épreuves au temps qui passe, Amélie Nothomb se confie à voix nue de lundi à vendredi à 20h et sur franceculture.fr.
Il est 6h57 sur France Culture, l'heure de vous retrouver, Guillaume Erner, bonjour.
Mais bonjour Julie Gacon.
Vous et votre humeur, votre sale humeur ou votre bonne humeur, ça dépend des jours. Aujourd'hui, comment permettre aux enfants de réussir?
Un programme ambitieux Julie, mais j'ai la solution, plutôt elle m'a été soufflée par le magazine Le Point cette semaine, puisque vous préférez les solutions aux problèmes. Voici le retour de Céline Alvarez, la gourou de la pédagogie enfantine qui est à la maternelle ce que Michelin fut au pneumatique. Avant Céline Alvarez, on ne savait rien. Maintenant, on sait tout et surtout, on sait comment savoir. Voici donc sa nouvelle méthode éducative parce que sa vieille méthode, c'était l'an dernier et celle-ci est dépassée. La nouvelle est bouleversifiante. Céline Alvarez n'hésite pas à dire qu'il faut favoriser, je cite, les fonctions exécutives, autrement dit les fonctions cognitives supérieures de l'intelligence humaine, je la cite. Les fonctions cognitives supérieures de l'intelligence humaine, voilà l'ami, voilà ce qui doit être favorisé chez l'enfant. Ma connaissance du vol à puc me permet même de traduire cette expression, fonction cognitive supérieure de l'intelligence humaine, ça désigne la part intelligente de l'intelligence. Et je crois que cette part intelligente de l'intelligence peut nous permettre de comprendre d'autres notions vertigineuses agitées par Céline Alvarez, ces notions qui permettent à coup sûr de faire de notre progéniture de petits Steve Jobs, le contrôle inhibiteur, c'est très bien, hein, le contrôle inhibiteur, ça veut dire réfléchir, ou bien encore plus avant, la flexibilité cognitive, autrement dit réfléchir beaucoup, beaucoup. Et le voilà le secret, Céline Alvarez a raison, j'en suis sûr, pour développer les fonctions exécutives de la cognition apprenante, hein, parce que moi aussi, je vais développer une méthode éducative. Vous allez voir, il faut apprendre aux enfants à réfléchir, et même à réfléchir sur leur réflexion, en supprimant, je dirais, les fonctions inférieures de la rigidité cognitive, parfois trivialement appelée la connerie. Car je dois vous l'annoncer, la pointe avancée des sciences cognitives l'a maintenant démontré en grande pompe, la connerie peut être l'ennemi de l'intelligence. Oui, la connerie est l'ennemi de l'intelligence, mais attention, à trop vouloir remplacer l'une par l'autre, on risque de ne plus y rien y comprendre, sauf à vouloir développer, bien sûr, une intelligence de la connerie.